Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de SOS Chrétien d'Orient consacrée à la culture et principalement évidemment à la culture dans nos pays de mission et dans le monde des chrétientés orientales en particulier. François-Xavier Jiquel qui anime cette émission, moi-même qui suis le directeur des opérations de SOS Chrétien d'Orient. Nous allons aujourd'hui faire un focus particulier sur le Moyen-Orient et sur son patrimoine. Je reçois aujourd'hui Lara Scarlett Gervais qui est la fondatrice et présidente de l'association Héritage et Civilisation. Bonjour Lara.
Bonjour François-Xavier.
Alors, je sais que vous travaillez énormément. Alors, vous n'aimez pas qu'on vous présente comme une spécialiste du Moyen-Orient, bien qu'on ait eu l'occasion de se croiser à maintes et maintes fois et que j'apprends beaucoup à votre contact. Mais vous avez quand même beaucoup circulé dans la zone et notamment pour travailler sur les questions de patrimoine de votre côté en lien avec l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous détailler aujourd'hui l'état de ce patrimoine au Moyen-Orient et quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur cet héritage plurimillénaire de l'humanité?
Donc en 2016, j'ai passé 6 mois en Syrie et en Irak. Mon voyage, moi j'ai une façon, oui, quand je dis que je suis pas spécialiste du Moyen-Orient, c'est que je suis plutôt une grande voyageuse et donc j'ai vécu avec différentes populations dans ces territoires-là. Notamment, j'ai participé par exemple au Nouvel An avec les Yézidis, j'ai vécu dans différents camps de déplacés, aussi bien avec les Chabaks, les Turkmènes, les Chrétiens. Et j'ai également pu me rendre sur de nombreux sites archéologiques. Donc concernant le patrimoine, on a tous été sensibilisés ou on a tous entendu parler de la destruction des temples de Palmyre ou encore de Mossoul, de Nimroud, du site archéologique d'Atra. Tous ces sites où ça a été des dégradations volontaires de l'État islamique dans le but d'anéantir l'histoire, les racines et la mémoire des peuples. Et j'ai également été confrontée évidemment à d'autres types de menaces sur ces sites archéologiques, comme par exemple ces sites qui servent de ligne de front et de zone de combat, donc des sites où on retrouve énormément de munitions, des sites aussi où il y a un gros problème de sécurité dû aux mines qui sont posées. Et évidemment, toute une dégradation lorsque, par exemple, vous êtes dans le nord de l'Irak, sur le site d'Ashnaswal et qui sert de ligne de front sur un conflit.
Voilà, donc en effet, on parlait d'héritage de l'humanité, puisque ce pays dispose de restes archéologiques de nombreuses civilisations, sumériennes, babyloniennes, acadiennes, qui sont pour les Européens que nous sommes, parfois peut-être un peu éloignés, mais qui sont vraiment constitutifs de notre histoire. On a notamment parlé lors de la venue du pape beaucoup de la ville de Ur, berceau d'Abraham, père des trois grandes religions monothéistes. Et notamment dans tout cet héritage, on a vu par exemple au niveau de Samara des sites qui ont été très touchés. C'était une zone qui était très touchée par les combats.
Concernant Samara, en fait, a servi de camp d'entraînement à l'armée américaine et notamment le minaret servait donc de tour de guet et a été ciblé par des destructions. Donc là, je vous parle, on est en 2003, en fait, début des années 2000. Et suite à ces destructions, l'UNESCO est intervenu et donc le minaret a pu être reconstruit sous l'égide de l'UNESCO. Après, les différents interlocuteurs que j'ai pu rencontrer là-bas faisaient nous alerter sur le manque de moyens. Des populations pour sauvegarder leur site archéologique, également sur d'autres types de dégradations qui, par exemple, là sont plus aussi, font appel à tout ce qui est les tags qui ont pu avoir lieu sur ces monuments. Notamment, par exemple, là, en lien avec des milices qui, après, se sont aussi investis le site archéologique. Donc, c'est vrai que les sites sont en proie, en fait, à de multiples agressions, on va dire, concernant leur patrimoine et leur intégrité.
Oui, parce que vous avez raison de le dire en termes de moyens. On ne peut pas dire que ces populations se désintéressent de leur héritage. Je me souviens notamment lors de la révolution en Égypte, tous ces Égyptiens qui se mettaient devant le musée du Caire pour empêcher les pillages, pour préserver leur héritage. J'ai pu l'observer aussi, le musée de Bagdad, des gens se sont vraiment battus, dont le conservateur actuel, pour essayer de le rouvrir rapidement. Est-ce que, voilà, vous l'avez déjà répondu en partie à la question, mais au milieu de toutes ces guerres que traverse le peuple irakien depuis ces dizaines d'années maintenant, c'est pas un défi qui pourrait paraître insurmontable de réussir à mettre en valeur tous ces sites, à les protéger, que ce soit de l'épreuve du temps, mais aussi de l'épreuve de la guerre, de l'épreuve parfois de crise politique telle qu'on connaît actuellement, où les priorités sont peut-être pas forcément celles de la préservation du patrimoine.
Après, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans ces régions qui sont évidemment où les facteurs et les urgences sont multiples. Moi, j'ai vu notamment aussi en Syrie, hein, lors de l'évacuation du musée de Palmyre, qui est un autre sujet que je connais bien, vu que j'ai pu participer à cette évacuation. Donc, avec quand même des gens, des archéologues, des gens qui sont investis, qui ont risqué leur vie pour sauver et sauvegarder leur propre patrimoine. Donc aujourd'hui, même dans un contexte diplomatique qui peut être complexe et voilà, très, très, avec des urgences en termes d'aide alimentaire, au niveau de l'aide, au niveau des médicaments, enfin tout ce qui peut être vraiment de l'aide d'urgence, il y a quand même eu des colloques qui ont été organisés, il y a quand même de la formation qui se passe au Liban. Il y a l'UNESCO qui a pu aussi, je me souviens, en Irak, envoyer certaines missions aussi pour documenter les sites. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Après, ça prend du temps. Il faut structurer les équipes, faire la formation. Il y a besoin de ce transfert aussi de connaissances, de cet accompagnement. Donc je pense que ça mettra du temps, mais que ce n'est pas un sujet, en tout cas, dont les populations locales se sont désemparées, au contraire.
En effet, ces populations locales, comme vous le soulignez, je pense, ont un vrai besoin de, aussi d'approfondir ces thématiques d'héritage, puisque dans ces pays complexes, où le terreau entre les différentes communautés est aussi celui d'un héritage commun des siècles passés, il est important, en effet, pour ces populations d'elles-mêmes se prendre en main et agir sur les enjeux des questions de patrimoine. On en reparlera juste après avec votre programme Odyssée. Vous parliez notamment de coopération internationale. On a vu des ONG qui intervenaient pour aider à préserver des lieux historiques, des églises détruites, ou même on voit dans le village d'Alcoche une ancienne synagogue qui détient le tombeau du prophète Nahum, qui est cité évidemment dans la Torah et dans l'Ancien Testament, mais encore d'autres sites comme ça. L'UNESCO notamment et d'autres partenaires ont mis en place un programme, je crois, auquel vous avez assisté et qui est particulièrement intéressant. C'est celui de la numérisation des sites archéologiques et même dans les musées aussi. Je crois qu'il y a de la numérisation d'artefacts dans les musées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, ça c'est une nouvelle technologie, en fait, la photogrammétrie, qui permet de recréer en fait des objets en 3D et aussi de pouvoir les partager. Notamment, c'est ce qui se passe actuellement aussi avec les musées qui ont été fermés. Ça donne un accès par le numérique à certaines œuvres. Donc c'est une façon de démocratiser l'œuvre, de la faire connaître, de faire voyager ce patrimoine hors des frontières. La numérisation peut avoir différents aspects. Ça permet évidemment de pouvoir documenter un site à un instant donné. Par exemple, j'ai pu moi me rendre à Nimroud assez rapidement après la libération par l'armée irakienne du site de Nimroud et de faire une numérisation des taureaux ailés qui ont été en fait détruits. Par l'État islamique, ce qui permettrait de refaire un état des lieux aujourd'hui et de voir en tout cas si toutes les pièces qui étaient présentes au moment où moi j'ai pu faire ma documentation sont toujours présentes ou pas.
Bien sûr, et c'est sur ça qu'on va enchaîner, puisque quand on parle de patrimoine, en effet, on parle de patrimoine matériel, mais on parle aussi de patrimoine immatériel. Alors j'ajouterais, je pense que ça n'existe pas, semi-matériel, à savoir, voilà, je vais mettre un peu l'accent aussi par exemple sur le travail de numérisation des manuscrits orientaux, de quels que soient les siècles, hein, qui existent, qui soient pré-chrétiens, post-chrétiens, qui concernent les traditions de vie dans les villages tout simplement, même d'habillement dans les villages, d'artisanat, qui sont passionnants et qui je pense sont vraiment indispensables à préserver dans ces pays. Nous avons travaillé avec Monseigneur Najib, archevêque chaldéen de Mossoul, qui a dédié une bonne partie de sa vie à préserver ces manuscrits qu'il a sauvés des bibliothèques avant l'arrivée de l'État islamique pour les numériser, les mettre en ligne et les mettre en accès libre aux chercheurs au travers de la planète, pour que même si les copies existant toujours en Irak sont un jour malheureusement détruites, le savoir continue à se propager à travers les siècles et que tout ça ne soit pas perdu du fait de la volonté de quelques êtres humains malfaisants à un moment donné. Nous avons beaucoup parlé dans l'actualité, je pense qu'un des faits d'actualité les plus marquants de ces dernières années a été la destruction de la cité antique de Palmyre par l'État islamique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire un point de situation, non exhaustif, mais de la cité antique de Palmyre, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qui a été touché, et qu'est-ce que nos auditeurs qui ont peut-être déjà visité Palmyre par le passé pourront espérer retrouver demain quand ces sites se réouvriront à nouveau au tourisme.
Alors, donc moi, je n'ai pas pu me rendre à Palmyre depuis 2016. Lors de ma présence à Palmyre, donc on est après la première libération en fait du site de Palmyre. Donc là, il y a une première phase de destruction avec la destruction du temple de Baal Shamin, du temple de Bel, des tombeaux, de la citadelle. Évidemment, une ville complètement ravagée, qui est la ville de Tadmor, le musée qui servait de centre administratif en fait à l'État islamique a été l'objet de combats très importants. Donc voilà l'état des lieux, en tout cas que moi j'ai pu auquel j'ai pu assister lorsque j'étais à Palmyre et qu'on évacuait en fait les œuvres vers Damas qui restaient. Ensuite, en fin 2016, le site est de nouveau sous le contrôle de l'État islamique. Et là, il y a une autre phase de destruction avec la destruction de l'amphithéâtre, donc des tétrapiles et d'autres sites qui restaient. Actuellement, j'ai pu me rendre là-bas dernièrement en février. Donc pour vous donner, finir sur une note, on va dire, en positif. Donc j'avais pu assister à l'évacuation en fait du Lion d'Alat, qui se trouvait aux portes d'entrée en fait du musée de Palmyre. Une évacuation qui a été très compliquée et qui a pu avoir lieu notamment grâce à l'aide de l'armée russe pour transporter en fait, soulever en fait ce lion de plusieurs tonnes pour pouvoir le mettre sur un semi-remorque, ce qui n'avait pas pu être réalisé lorsque j'étais présente. Donc l'évacuation a eu lieu quelques semaines après mon départ de Palmyre. J'ai pu donc retrouver ce lion au musée national de Damas, restauré grâce notamment à l'UNESCO et à une équipe de chercheurs polonais. Donc voilà, il y a des petites actions et l'espoir de retrouver certaines pièces maîtresses quand même de cette civilisation-là.
Et sur cette transmission du savoir, je crois que vous avez particulièrement avec votre association mis en place un programme d'échange à la fois entre les populations orientales elles-mêmes, les populations orientales et les populations européennes, occidentales, pour que non seulement elles se le réapproprient elles-mêmes, mais qu'elles puissent échanger au travers de la planète avec des personnes d'autres cultures. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, donc on a mis en place depuis 2 ans, là nous sommes dans notre deuxième année pilote, donc c'est le programme Odyssée. Actuellement, le programme Odyssée est développé dans plus de 60 classes dans 13 pays dans le monde, avec pour objectif que les enfants donc se réapproprient ce patrimoine et que par la création artistique et culturelle, ils puissent présenter, devenir en fait ambassadeurs de leur territoire vers d'autres enfants dans le monde. Et notamment, actuellement, nous travaillons avec différentes classes en Irak, en Syrie, au Liban, en Tunisie, au Maroc et aussi au Bénin et en France, et également aux États-Unis, qui travaillent ensemble sur certaines thématiques. Et l'objectif, c'est que je pense que la première chose avant d'apprendre à connaître l'autre, c'est de se connaître soi-même, de connaître ses racines, qui sont essentielles pour pouvoir échanger. Et aussi être fier de sa propre culture, de savoir de là où on vient, pour aussi pouvoir accepter, écouter et donc créer un dialogue plus tolérant, plus apaisé, un monde plus en paix.
Alors ça s'appelait à l'humanitaire que je suis. Non, parce que justement, en effet, ça, il faut le dire aux écoles qui seraient intéressées par le programme et qui nous écoutent. Il y a en effet toute une partie de recherche sur ses propres traditions, sur sa propre culture et sur son propre héritage. C'est pas simplement une visioconférence par mois pour échanger avec des élèves à l'autre bout de la planète. Il y a vraiment toute une partie où l'école est actrice du projet elle-même avec les enfants déjà en France.
Oui, c'est vraiment. Donc, on a différents partenaires. Hein, on travaille en lien avec les différents services, par exemple, Ville d'Art et d'Histoire, avec des musées. Notamment, là, à Limoges, nous avons un partenariat avec le Musée national Adrien Duboucher, qui a pu aller dans les classes pour transmettre ce savoir-faire autour de la porcelaine et des arts du feu. Ensuite, une céramiste a pu se rendre dans les classes. Donc, il y a eu de la création. Les enfants ont créé leur propre bol en porcelaine. Par la visioconférence et par le forum qui sont les deux pierres angulaires de ces échanges avec l'international, ont pu présenter leur création. Donc ça, c'est une façon d'agir concrètement. C'est aussi une façon de sensibiliser les jeunes à leur propre patrimoine et au patrimoine mondial. Également, on a pu assister, c'était aussi une petite victoire, alors que nous sommes en plein Covid et qu'on est tous enfermés chez nous. On a eu par exemple, l'école de Soleimani en Irak, les enfants ont été au musée. En Syrie, à Tartous, les élèves ont été sur un site archéologique. En Tunisie, ils ont pu aller visiter la Médina. À Sfax, un amphithéâtre. Et toutes ces sorties ont donné lieu à des comptes rendus, des créations qui sont partagées par cette plateforme numérique entre les élèves. Et on voit aussi des échanges qui sont très intéressants, des élèves qui se questionnent aussi sur l'autre, c'est une ouverture sur le monde.
Tout à fait, parce qu'on voit aujourd'hui, quand on parle de la Syrie par exemple, on va se focaliser un peu là-dessus, mais quand on parle de la Syrie ou même de l'Irak, on a un peu des images de destruction en tête. Je pense que les Français, quand ils imaginent ces pays-là, voient, et puis avec la focalisation que font nos médias, voient des champs de ruines, voient des familles qui fuient par centaines de milliers ou par millions à l'étranger. Comment se passe aujourd'hui la reconstruction? Comment est-ce que les enfants au cœur de cette reconstruction ont aussi leur rôle à jouer à leur niveau et surtout comment est-ce que ces jeunes qui sont le terreau de la Syrie de demain vont pouvoir être acteurs au sein de leur pays pour en effet reconstruire leur pays déjà tout d'abord hein, de manière matérielle et culturelle, mais également reconstruire entre les différentes populations qui parfois ont pu être amenées à vivre certaines tensions au sein d'un conflit très douloureux pour le peuple syrien.
C'est pour ça que c'est important, à mon avis, et que la paix ne se construira pas sans l'éducation des plus jeunes, et puis sans cette ouverture de l'autre. Quand, par exemple, des enfants échangent entre une classe, découvrent les travaux d'une classe aux États-Unis, en Syrie, et qu'on connaît le contexte actuel, la première chose dont ils sont en fait témoins, c'est que ils jouent au même jeu. Ça reste avant tout des enfants. Et ça leur permet ensuite de pouvoir parler de leurs différences. Et ça, je pense que c'est de recréer ces liens et de ne pas exclure en fait, ces populations. C'est pas voilà, en excluant certains pays, certaines problématiques qu'on pourra résoudre en fait, le conflit.
Très bien, merci beaucoup Lara Scarrett-Gervais. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Héritage et Civilisation. Et on ne peut qu'encourager nos auditeurs à aller voir vos actions, les écoles intéressées à vous contacter directement. Et éventuellement, si des donateurs nous écoutent, je crois que vous êtes aussi preneuse de ce genre de soutien. Merci à vous.
Merci à vous.